pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Bonjour à tous, il est 14h sur Art District Radio et l'on retrouve l'émission Jazz Interview et c'est Luc Seabright cette semaine avec moi en studio. Bonjour Luc.
Bonjour Julie.
Comment ça va?
Très bien, merci. Ravi d'être ici et ravi de pouvoir parler musique, parler jazz, parler piano, piano trio avec notre invité du jour. Un invité qui, il y a pas si longtemps de cela, on aurait peut-être pu décrire comme... Une flèche montante, une des grandes promesses du jazz français, mais aujourd'hui c'est bien plus que cela, avec déjà un prix Django Reinhardt en 2017, et surtout une discographie qui commence déjà à avoir fière allure. Il s'agit donc de Fred Nardin. Bonjour Fred, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien.
Merci d'être ici, on est ravis de t'accueillir au studio.
Et je suis ravi d'être là.
On va donc, parlons trio, puisqu'on va donc écouter de la musique de ton dernier enregistrement en trio, et surtout... nos auditeurs, qui sont en tout cas nos auditeurs parisiens, pourront t'entendre ce soir au Sunset et demain, puisque deux concerts qui arrivent le 18 et le 19 février, donc ce soir et demain, au Sunset, avec ton trio. Donc est-ce que tu peux nous parler des musiciens avec lesquels tu vas jouer au Sunset?
Alors ça sera avec le trio habituel, c'est-à-dire avec les deux musiciens avec lesquels j'ai enregistré mes deux derniers disques. Ça sera Or Barraquette à la contrebasse et Léon Parker à la batterie, voilà, un batteur avec lequel je joue depuis plus de 10 ans maintenant.
Et c'est un trio international, puisque Léon Parker est originaire des États-Unis, Or Barraquette est israélien, mais Léon habite en France aujourd'hui?
Alors Léon maintenant habite à Bruxelles, il était parti à New York là, c'est un peu ces dernières années, et Or habite toujours à New York, c'est
d'accord.
Un des bassistes très sollicité sur la scène new-yorkaise.
D'accord. Et donc comment ça marche un peu la vie d'un trio international comme ça? Est-ce que vous voyez souvent ou est-ce que c'est assez difficile justement de se retrouver?
Alors moi je vais assez régulièrement à New York quand même. J'essaie
ouais.
d'y aller deux fois par an. Or vient assez souvent pour jouer avec d'autres artistes en Europe.
Ouais.
Donc du coup, j'arrive à organiser sous forme de tournée ce que je vais faire ici. Là on a 10 concerts à la suite. Donc voilà, ça demande juste un peu d'organisation et de pouvoir organiser ce genre de petites tournées pour pouvoir amortir un peu les frais qu'il peut y avoir.
D'accord.
Aussi.
Donc là, au Sunset, c'est le début de cette tournée?
Alors le premier concert était à Marseille, ça a débuté mercredi. Et voilà, ce soir, on sera au Sunside, ce soir et demain, pour deux concerts parisiens.
D'accord. Et donc, tu disais, Léon, ça fait 10 ans que vous vous connaissez, 10 ans que vous travaillez ensemble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette collaboration? Comment vous vous connaissez?
Alors, Léon, on s'est rencontrés dans une jam session au Sunside, notamment, il y a maintenant un peu plus de 10 ans. Et je sais pas, quand on a commencé de jouer ensemble, tout de suite, ça a accroché. Donc moi,
ouais.
j'étais tout jeune, j'avais à peine une vingtaine d'années. Et il m'a dit est-ce que tu peux me donner ton numéro parce que j'aimerais faire quelque chose, j'ai une répétition demain, on pourrait faire une session. Et dès qu'on a commencé à jouer ensemble, on s'est dit que c'était super. On avait monté un premier trio à l'époque avec un bassiste italien qui s'appelait Matteo Borton, et ce trio s'appelait Inception Trio, mais à l'époque on n'avait pas enregistré, il n'y avait pas de disque qui était sorti. Après j'ai joué dans ces différentes formations.
D'accord,
on
ouais.
a joué notamment aussi dans le quartet de Jesse Davis, on a joué avec Josh Schwarzbartz, on a joué avec plusieurs groupes différents, Fabrizio Bosso en fait en sideman, et après dans mon trio avec différents bassistes, mais ce trio là existe maintenant depuis 4 ans, c'est-à-dire avec Or Barraquette et Léon Parker.
D'accord, donc Or s'est rajouté il y a 4 ans, lui comment est-ce que tu l'as rencontré?
Alors on s'est rencontré par l'intermédiaire de Léon, à New York. En fait, Léon l'avait rencontré lors d'un concert qu'ils avaient fait en Europe avec Aaron Goldberg, donc un pianiste avec lequel travaille Léon. Et voilà, ça a tout de suite bien accroché. On a tout de suite trouvé un son. Et je me suis dit assez rapidement que c'était intéressant d'enregistrer. J'avais de la musique. Voilà. Donc après, on s'est retrouvés en studio. Ouais. Et puis tout de suite, ça a matché.
Ben, ce son, je suis curieux, parlons-en, parce que du coup, je suis toujours un curieux de demander aux gens avec qui j'ai la chance de parler un peu qu'est-ce qui, selon eux, fait la spécificité de leur son et surtout un peu l'équilibre de leur groupe, de leur trio. Qu'est-ce qui, selon toi, constitue un peu votre complémentarité en tant que trio? Pourquoi ça marche, selon toi?
Alors déjà, Léon a un jeu assez, on va dire, hors du commun, qui est assez spécifique.
Ouais.
Il joue sans charleston, il joue qu'avec une cymbale. Donc, on va dire que tout de suite, ça donne un espace, ça donne de l'espace à la musique. En plus, c'est quelqu'un qui a à la fois ce côté de batteur, mais ce côté aussi de percussionniste. Donc du coup, le son, tout de suite, il enveloppe le son. Il joue avec extrêmement de nuances, de palettes sonores. Il va arriver à faire sonner sa batterie qui est très minimaliste de 10 000 manières. Du coup, c'est très inspirant. Il est très à l'écoute. Du coup, déjà, ça crée quelque chose dans le son qui est assez unique et assez spécial. C'est pourquoi il y a beaucoup de pianistes qui ont aimé jouer avec lui aiment jouer avec lui.
J'ai souvenir d'avoir parlé justement avec Aaron Goldberg qui m'avait aussi parlé longuement de Léon Parker et de leur relation, et qu'il avait décrit comme un excellent coloriste, quelqu'un
exactement.
Qui...
Ouais. C'est un bon mot. C'est quelqu'un qui apporte cette couleur qui lui est vraiment spécifique. Je pense qu'il y a personne qui joue comme lui. Donc c'est déjà dans le son, il a quelque chose d'unique, que ça soit avec Jackie Terrasson, avec lequel il a beaucoup travaillé, Aaron Goldberg, Brad Meldo. À chaque fois que vous avez Léon Parker sur un disque, c'est unique.
Ouais.
On reconnaît que c'est lui qui joue. Concernant Orb à Rocket, donc évidemment, il vient de l'école israélienne, donc il a un jeu à la fois très précis, avec un son très très large. Pareil, quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute, qui est très très fort rythmiquement. Il joue notamment avec Aaron Goldberg aussi, avec Harry Honig. Donc c'est quelqu'un qui a une pulsation rythmique très forte.
Ouais.
Donc Léon et Or, déjà, ont cette relation basse-batterie qui fait que c'est cette racine de rythme qui est extrêmement ancrée et qui est hyper solide. Donc du coup, pour un pianiste, de se poser là-dessus, sur ce tapis basse-batterie, c'est juste fabuleux.
Ouais. Et tu parles de cette écoute aussi, ça c'est en quelque sorte la clé de voûte aussi.
Exactement. La musique, elle peut aller n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un concert, d'un soir à l'autre, les morceaux peuvent prendre carrément une tournure différente, une autre direction. Et c'est ce qui est intéressant pour moi d'avoir ces deux musiciens qui sont tous les deux des musiciens exceptionnels dans leur catégorie.
Donc, aux deux concerts du Sunset, on va probablement entendre des morceaux du nouvel album dont on va parler, Look Ahead, mais qui du coup, comme tu dis, ça va prendre une forme unique le soir même, parce que c'est aussi la magie de jouer avec des improvisateurs comme ça, c'est que ça peut aller, ça peut prendre une forme unique.
C'est la magie de cette musique de jazz, en fait. C'est-à-dire que, entre l'album et ce qui se passe sur scène, il y a toujours des... Des surprises, des différences qui font que c'est intéressant d'aller découvrir les musiciens sur scène, en plus de les écouter en disque.
Bien sûr. Du coup, j'ai mentionné le nouvel album Look Ahead, qui est donc sorti en mars de l'année dernière, donc en 2019. Et je propose qu'on enchaîne directement avec une première écoute. Et j'ai choisi personnellement d'écouter le morceau éponyme parce qu'il me plaît tout particulièrement. Donc je propose qu'on écoute Look Ahead du morceau Look Ahead, de l'album Look Ahead, le dernier album du trio de Fred Nardin. Voilà, c'était donc le morceau Look Ahead du tout dernier album du trio de Fred Nardin. Fred est avec moi dans le studio. C'est un morceau que j'aime particulièrement, avec une sorte de construction très, très originale. Est-ce que c'est une composition originale à toi ?
Ouais, c'est une composition originale, teintée d'emprunts de pas mal de choses. Petit clin d'œil à McCoy Tyner, petit clin d'œil à Herbie Hancock. Voilà, c'était l'idée de pouvoir aller de l'avant. C'est ce que raconte un peu ce morceau, c'est-à-dire d'essayer cet album en fait. C'est-à-dire que Opening était un peu une présentation du trio. Look Ahead, c'est continuer à regarder de l'avant, avancer et pour aller sur la prochaine étape.
D'accord. Donc justement, je voulais te demander donc tu as mentionné Opening, du coup l'album précédent du trio qui est sorti en 2017, il me semble. Mm-hmm. Et donc qu'est-ce qui t'as parlé d'une sorte de progression, comment est-ce que tu la vois, cette progression du groupe, comment est-ce que selon toi vous avez évolué depuis ce premier album?
Bah, il y a eu déjà pas mal de concerts, il y a eu plusieurs tournées. Moi, avant d'enregistrer, j'aime bien tourner la musique, c'est-à-dire la jouer sur scène. Et à chaque fois, je prends des séances de studio au milieu d'une tournée.
Ouais, d'accord.
Donc on a fait ça pour Opening, on a fait ça pour Look Ahead. Et pour cet album, je ne sais plus, on avait eu 10 ou 12 dates avant de rentrer en studio. Donc quand on arrive en studio, on est assez chaud. C'est-à-dire que la musique, elle est sue. Et on a juste à faire quelques prises et à choisir la meilleure, en fait.
Ouais,
il y a une énergie du live qui est quand même traduite sur l'album, même si on est obligé d'être beaucoup plus concis, qu'on est sur des formats plus courts, parce que
ouais,
c'est ce qui est intéressant dans un disque, il faut arriver à respecter ce format.
Ouais, bien sûr.
Voilà, je pense que simplement aussi la différence, c'est que le groupe avance, le fait de jouer ensemble, de travailler de la nouvelle musique, d'aller en profondeur, de faire des concerts, de gagner ce son de groupe, cette osmose, cette cohésion entre nous, fait que je pense que le niveau du groupe augmente aussi.
Ouais, bien sûr.
Voilà.
Et donc... On a écouté Look Ahead, c'est une composition originale. Est-ce que chacun apporte ses compositions au groupe, ou est-ce que tu privilégies tes compositions, ou comment ça se passe?
Alors dans ce trio, c'est mes compositions seulement. Ouais. Par contre, c'est assez ouvert sur, on va dire, sur les propositions de chacun. C'est-à-dire que quand j'amène un nouveau morceau, chacun va proposer un peu peut-être une idée, tiens, sur une intro ou sur un pattern rythmique ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'après, on fait évoluer ça.
D'accord.
Sur scène, histoire d'avoir quelque chose d'assez mûr pour pouvoir rentrer en studio après et avoir que chaque morceau ait une vraie histoire, une vraie identité. C'est ce que je trouve intéressant.
Ouais. Et une identité construite en commun aussi. Donc,
exactement.
D'accord, ouais. Donc toi, tu ne vas pas forcément amener à la répète un morceau qui est complètement formé, finalisé.
C'est un morceau fini, mais par contre, dans la manière de jouer, c'est assez ouvert.
Oui, bien sûr.
Donc c'est assez ouvert sur le tempo, c'est assez ouvert sur la manière de l'interpréter.
Ouais.
Et donc sur le dernier album, ce qui m'intéressait aussi, c'est que chacun ait une plage en solo. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir de la moitié du disque, chaque piste est précédée. Enfin, il y a un petit prélude qui précède chaque morceau de chacun des musiciens. Donc il y a un prélude de Léon, un prélude de Or et un prélude de piano.
Oui, de piano, oui. Oui, c'est donc ces courts morceaux où on entend Léon à la voix également, il me semble.
Exactement.
Ouais, d'accord. Ouais. Donc oui, tu as parlé de composition originale. J'ai relevé tout de même une version que vous avez fait d'un morceau de Herbie Hancock, mm-hmm. One Finger Snap. Donc voilà, vous faites aussi des reprises. Tu as mentionné également Herbie Hancock par rapport au premier morceau qu'on a écouté, le clin d'œil. Donc est-ce que Herbie Hancock, c'est une influence particulièrement importante pour toi?
Lui, parmi tant d'autres, je parlais de McCoy avant, il y a aussi beaucoup de... dans le premier album, il y a deux morceaux de Monk. On avait repris I'm in You et Grim Chimneys. À chaque fois, j'aime bien trouver des arrangements spécifiques aussi pour jouer les standards.
Ouais.
Voilà, c'est ce qui me lie aussi à la racine de cette musique. Je pense que c'est important pour un musicien d'être connecté à ces racines-là, de connaître les standards et de les jouer. On en joue beaucoup sur scène, à chaque fois on les réarrange, mais le fait de mélanger ma musique, les compositions et les standards, c'est ce qui fait que...
Ouais. Et c'est ça aussi un peu la magie du jazz, c'est que oui, certes, on se nourrit d'un répertoire, on se nourrit d'une tradition, mais qui se réinvente tout le temps, justement, parce que c'est une musique vivante. Mais pourquoi pas écouter justement ce morceau, cette reprise du morceau de Herbie Hancock, donc One Finger Snap. En plus, c'est une super démonstration de la virtuosité du groupe parce qu'il part à toute vitesse. Donc allons-y, écoutons One Finger Snap. Donc écoutez One Finger Snap, c'est extrait du dernier album de Fred Nardin, Look Ahead, qui est sorti l'année dernière, en 2019, mars 2019. Et j'ai Fred avec moi dans le studio. Et donc, c'est un enregistrement de ton trio. On a parlé un peu de ton trio auparavant. Et parlons désormais un peu de à quoi ressemble ta vie d'artiste en dehors justement de ce projet-là, de ce travail-là, parce que tu travailles avec plein de différents artistes de la scène française et internationale, plein de différents projets. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler de peut-être les principaux projets qui rythment ta vie d'artiste?
Alors oui, il y a pas mal de choses, effectivement. Donc, il y a évidemment The Amazing Keystone Big Band, donc je suis un des membres fondateurs avec David Enco, Bastien Ballaz et John Boutelier, qui est un big band qui va fêter bientôt ses 10 ans, avec lequel on joue beaucoup. Donc voilà, un big band de 17 musiciens où on a fait notamment plusieurs disques à vocation un peu, on peut dire, pédagogique, avec des contes musicaux pour enfants, à chaque fois comptés par des super récitants avec des histoires originales et des très beaux livres. Et puis, c'est un groupe avec lequel on fait beaucoup de concerts avec différents invités également. Et le dernier en date est La Voix d'Ella et We Love Ella, où il y a Célia Camini qui est la chanteuse de l'orchestre. Donc ça, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur et qui prend évidemment beaucoup de temps parce qu'on fait beaucoup de concerts partout en France.
17 musiciens, est-ce que ce sont toujours les mêmes musiciens ou ça tourne ?
Ouais, c'est toujours les mêmes musiciens.
D'accord. Donc c'est quand même c'est un projet d'envergure.
Ouais, c'est un gros projet, c'est un big band. C'est voilà, on est très heureux de pouvoir faire tourner une grande formation comme ça sur les routes.
Qu'est-ce qui a été un peu l'histoire de la genèse du projet? Qu'est-ce qui l'a lancé?
En fait, on apprenait à faire des arrangements pour grand orchestre au CNSM de Paris, où j'ai fait mes études. Et voilà, on s'est dit que simplement, si on voulait apprendre à vraiment faire des arrangements, c'était important de peut-être le faire vraiment. Donc on a décidé d'appeler les copains pour faire un concert dans un club à Lyon qui s'appelle La Clé de Voûte. Et en fait, c'est parti de là. Donc le nom à la fois de Keystone Big Band, Keystone qui veut dire clé de voûte en anglais.
Ouais.
Enfin, clé de voûte en français plutôt. Et c'est parti, les histoires de un peu pédagogiques et de faire ce type de spectacle est parti d'une idée de Jazz à Vienne qui nous a commandé Pierre et le Loup en jazz pour le festival, voilà, pour les concerts, pour les jeunes publics.
D'accord. Donc des musiciens de Paris, mais aussi de Lyon.
Exactement. On a créé le Big Band à Lyon.
D'accord. Et donc là, vous tournez toujours avec le projet de Ella.
Alors en ce moment, on tourne avec différents projets. On a un projet sur Ella, on a un projet sur Django Reinhardt, on a un projet sur... on a fait le Carnaval des Animaux, on a fait Pierre et le Loup, on a un projet sur West Side Story. On a plein de projets qui tournent un peu en même temps. Donc on a beaucoup de musique. Donc c'est cool, ça entretient.
D'accord, ouais. Et donc tu as mentionné le Amazing Keystone Big Band et du coup des autres collaborations que tu maintiens.
Alors dans les nouvelles choses, donc évidemment il y a le quartet du guitariste Hugo Lippi avec lequel j'ai enregistré à New York et le disque qui est sorti en septembre dernier si je me trompe pas. Il y a mon quartet avec John Boutelier qui continue également. Il y a un nouveau projet en quartet avec Stefano Di Battista qui va voir le jour et qui va tourner cet été avec notamment André Ceccarelli à la batterie. Je continue également sur certains projets avec Veronica Swift où il y aura pareil des dates qui vont arriver en octobre. Enfin, pas mal de choses en sideman avec différents musiciens. Switch Trio aussi, un trio que j'ai avec Max Fougère et Samuel Hubert, où il y aura un disque qui va bientôt venir également. Voilà, c'est un peu les choses qui sont en ce moment. J'ai pas mal de choses en sideman avec pas mal de gens.
Ouais.
Donc, avec le saxophoniste italien Max Ionata aussi, en quartet avec Thomas Bramery et Franck Agulon.
Voilà. Ouais. Parce que du coup, pour un musicien de jazz, j'imagine, on est forcément, on aime avoir ses propres projets, mais on doit beaucoup se nourrir aussi justement de ses projets en tant que sideman avec d'autres artistes, où justement, ça, c'est une perspective un peu différente d'être sideman plutôt que leader, mais qui doit être tout aussi enrichissante.
Ouais, en fait, il y a pas mal de choses. Moi, en plus, je joue. En fait, je fais pas mal de choses différentes. Évidemment, je fais des arrangements, j'écris de la musique pour le big band et parfois pour certaines personnes, c'est-à-dire que je vais faire de la direction artistique. Par exemple, j'ai fait le disque d'une chanteuse américaine là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Nancy Arms, où là, j'ai carrément fait toute la direction artistique de l'album. Oui. C'était la même chose aussi pour Hugo Lippi. Après, je joue du piano et je joue de l'orgue. Donc l'orgue, pareil, je suis en sideman avec pas mal de gens. J'ai joué récemment en trio avec Stéphane Belmondo. Il y a des choses qui vont arriver. On sera notamment au Duc des Lombards en mars. Et après, on sera sur une tournée en Allemagne pour 2 semaines avec Bernd Reiter, Ralph Lalama et Gary Smulyan, où là, je joue l'orgue. Voilà, ce qui fait que, en fait, d'avoir un peu cette palette de diversifier, ouais, fait que je me retrouve avec pas mal de travail. On m'appelle pour différentes raisons.
Ouais. Et t'as du temps pour en dehors de la musique ou ça occupe
la
tout
musique
tout
me prend beaucoup de temps. Ouais. Mais voilà, j'adore ça depuis que je suis tout petit.
Donc, ouais, bien sûr. Voilà. Bah, justement, parlons-en un peu. Tu as mentionné que tu étais au CNSM de Paris. Donc ça, c'est quel est un peu ton parcours depuis justement que tu as découvert la musique tout petit?
Donc j'ai fait mes études au conservatoire de Chalon, aux études classiques et jazz, et je suis rentré au conservatoire de Paris, j'avais 18 ans.
D'accord. Donc ça, c'est une formation qui dure combien de temps?
J'ai fait un master en 4 ans. D'accord. Et après, j'ai intégré une classe de musique de film aussi qui était dirigée par Laurent Petit-Gérard, où c'était une graduation post-master, où j'ai fait cette formation pendant 1 an et demi, où là j'apprenais à écrire pour grand orchestre, notamment pour la musique de film.
Est-ce que vous composiez sur un film particulier ou des films d'étudiants, ou comment ça marchait?
Non, on composait, on avait des grands réalisateurs qui venaient à la classe et on faisait 5-6 minutes de musique sur une séquence et on leur proposait, ils nous disaient pourquoi ils aimaient, pourquoi ils n'aimaient pas. C'était une super formation. On était 6 étudiants, en fait, on était, ou 7 étudiants, je ne me souviens plus, mais on était 2, la classe de jazz, j'étais avec John Boutelier et tous les autres étaient des gens qui venaient de la composition classique, qui avaient, oui, fait les classes de contrepoint du CNSM.
D'accord.
Et c'était un super niveau et il y avait énormément de travail et c'était vraiment intéressant parce qu'à la fois on abordait avec les réalisateurs et avec notre professeur ce qui fait qu'une musique de film peut fonctionner.
Oui, donc
et comment on écrit une musique de film, le rapport au film, le rapport à l'image. Et en même temps, on avait des cours de mixage, on avait des cours de comment, d'utilisation des logiciels pour pouvoir faire des musiques avec des sons artificiels.
Ouais.
Et voilà, ça m'a beaucoup appris aussi après pour faire ce que je peux faire maintenant, c'est-à-dire de la direction artistique.
Oui. Oui, parce que du coup, j'imagine que les problématiques de mixage ne sont pas tout à fait les mêmes quand du son lorsque c'est adapté au cinéma. Et puis aussi, comme tu disais, il y a la question narrative de
ouais, et c'est le fait de simplement de connaître les termes et de savoir aussi utiliser un matériel et,
ouais, bien sûr,
et
ouais,
d'avoir été formé là-dessus, c'est cool.
Des séquences de films particulières dont tu te souviens, avoir composé quelque chose dont tu étais particulièrement content?
Il y avait Jean-Jacques Hano qui était venu à la classe, on avait fait une séquence sur la guerre du feu, on avait fait une séquence sur l'amant. En fait, on a eu plein de réalisateurs qui sont venus, on avait participé au festival de Cannes, on avait l'orchestre de Cannes qui jouait une de nos pièces. C'était vraiment une belle classe,
ouais.
Et c'était très enrichissant, notamment au niveau de la composition et au niveau de l'écriture.
Et après ta formation, tu es resté à Paris?
Alors en fait, pendant tout ce moment-là, à côté de ma formation, je commençais à jouer dans les clubs, ouais, je commençais à faire les jam sessions aussi. Et voilà, j'ai tout de suite commencer à collaborer avec pas mal de musiciens.
C'est là qu'on apprend le plus, non, dans les jam sessions?
Ouais, dans les jam sessions et puis dans les concerts. Et puis voilà, en 2010, on a créé le Keystone. Et puis après, j'ai commencé à enregistrer en sideman avec pas mal de gens.
Ouais.
Voilà, Sophie Allour, Véronique Herman Sambin, avec qui j'enregistre à ce moment-là. On a fait un disque en quartet avec John Boutelier. Je sais pas, on l'espace, voilà, il doit y avoir une petite trentaine de disques maintenant.
Donc, tu as désormais une carrière qui, enfin, ça doit faire quoi, 10 ou 15 ans ?
10 ans, ouais.
Est-ce que sur ces 10 années, c'est peut-être une question ambitieuse, mais un ou deux souvenirs marquants qui sortent du lot ?
Ouais, il y a. En fait, j'ai travaillé avec la chanteuse Cécile McLaurin-Salvant, et c'est vraiment quelque chose dont je peux être assez fier maintenant, en fait, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup, que je trouve assez incroyable. Et je me souviens d'un concert où on jouait au Festival de Beaupré. C'était tout au début, on travaillait ensemble. Alors, ça devait être en 2012, me semble-t-il. Et on jouait en première partie de Mulgrew Miller, d'un pianiste que j'adore. Et en fait, on s'est retrouvé au Festival de Beaupré. Et je me souviens, on faisait la balance donc, avec Cécile, donc, qui n'était pas encore du tout connue. Elle venait juste de gagner le concours Thelonious Monk.
Ouais.
Et elle n'était pas encore à New York. Donc, c'était juste avant. Et Mulgrew s'est assis au premier rang et a commencé à écouter le quartet et était assez subjugué, je pense, par le talent de Cécile et a écouté complètement toute la balance.
C'était les balances, d'accord.
Ouais, et il est resté aussi pour l'intégralité du concert. Et je peux dire que quand on est pianiste et qu'on a quelqu'un comme Hugo Miller qui est juste à 2 mètres de vous et qui juste écoute l'intégralité du concert, c'est assez, comment dire, surnaturel.
Ouais. Il vous a approché
Et on a passé un super moment. Je me souviens qu'il y avait un grand repas donc avec tous les musiciens et tout ça. Et c'était super. Et j'ai beaucoup parlé avec lui. Il m'a donné plein de chouettes conseils. Et après, il m'a invité pour une journée où il passait. C'était 2 jours après. Il jouait avec 4 pianos avec Benny Green, Eric Reed, Kenny Barron et lui-même sur la scène du Théâtre Antique.
Ah
et
oui.
Il m'avait dit ouais, viens et tout, je vais te faire rencontrer des super pianistes.
Je crois que j'ai jamais entendu parler de.
Voilà,
de
c'était un concert incroyable et j'ai passé la journée avec ces 4 pianistes qui sont les 4 de mes plus grandes idoles. Enfin, Kenny Barron, j'ai eu la chance de le voir plein de fois et de le rencontrer assez jeune, mais c'est une de mes plus grandes idoles du piano jazz. Donc
ah ouais.
Les avoir, Kenny Barron, Mulgrew Miller, Eric Reed et Benny Green, c'était pour moi juste peut-être le plus beau souvenir que j'ai.
Ah, extraordinaire.
Voilà.
Et tu les connais ou c'est des gens avec qui tu as maintenu une relation personnelle ou professionnelle ou...
C'est des gens que j'ai croisés plusieurs fois. Malheureusement, ouais. Mulgrew nous a quittés il y a bientôt 5 ans. Et le soir de ce concert-là, il joue avec un batteur qui s'appelle Rodney Green. Et Rodney, on a notamment depuis un hommage à Mulgrew où il joue dans ce groupe,
ouais.
Donc, qui est un groupe en quartet. On joue la musique de Mulgrew et c'est notamment Rodney qui remplace Leon Parker dans mon trio quand Leon n'est pas disponible.
Leon n'est pas disponible.
Donc voilà, c'est ce qui fait un peu les rencontres entre les musiciens et les grands moments. Et voilà.
Super. Fred, je propose que on va se quitter avec un dernier morceau de l'album. Écoute, j'ai noté une préférence, mais est-ce que tu veux proposer un morceau en particulier ?
Alors, vas-y.
J'allais proposer qu'on termine avec In the Skies.
Parfait.
Ouais. Donc il y a d'ailleurs un clip qu'on peut voir en ligne. Si...
Ouais, c'est ma petite nièce qui danse. En fait, quand j'ai écrit ce morceau. Enfin, l'histoire est un petit peu rigolote, on va dire. Mais sur le premier disque, il y avait un morceau qui s'appelle New Vals. Et en fait, ma petite nièce, qui est en 3e cycle de danse classique au conservatoire de Chalon-sur-Saône, m'a dit « Ah, j'aimerais bien choisir ce morceau-là pour mon audition, pour faire mon spectacle. » Et je dis « Ah ouais, bah super !» Et elle m'a envoyé la vidéo et c'était vraiment très très bien. Et je lui dis, tu sais quoi, pour le prochain disque, on va faire un morceau et tu danseras sur le clip. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, elle danse sur ce clip In the Sky, ce qu'on a tourné en Bourgogne avec des superbes images.
C'est un très beau clip, ouais.
C'était tourné pendant l'hiver. Et c'est vrai que le clip est très sympa. Ouais. Et c'est elle qui a complètement fait la chorégraphie. D'accord. De A à Z, elle a eu carte blanche et elle s'en est hyper bien sortie.
Bah, chapeau. Il y a du talent dans la famille. C'est donc, on va donc terminer avec ce morceau de l'album Look Ahead. C'est le tout dernier album du trio de Fred Nardin. On rappelle qu'il y a deux concerts qui arrivent ce soir et demain au Sunset. C'est à 21h et c'est bien au Sunset.
Sunside. En haut.
Donc en haut. Voilà, on va écouter In the Skies avec une très belle intro piano-basse. C'est le dernier album du trio de Fred Nardin. Merci beaucoup Fred d'avoir été là.
Avec plaisir, merci à vous.
Et donc on profite de ce dernier morceau. Voilà, merci beaucoup Fred et bonne journée.